Sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission préparée par Corinne Valente et Lola Berthet, réalisée par Eliane Girard et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, Johanna Gabric. Au milieu du 19e siècle, l'économiste Adolphe Blanqui invite les députés à visiter les caves de Lille dans lesquelles vivent les ouvriers du textile. En 1851, Victor Hugo s'y rend avec Blanqui et découvre des miséreux entassés dans des espaces sordides et insalubres. Il écrit à ce sujet un magnifique discours pour l'Assemblée, discours qu'il ne prononcera pas en raison du coup d'État de décembre 1851. C'est la gourmandise du jour puisqu'on peut la lire, nous mettrons un lien sur le site et je vous livre un passage dont le lyrisme peut difficilement être contré. Hugo vient de décrire la misère en détail et de dire son indignation, puis il ajoute « Figurez-vous tout cela, et si vous vous récriez, et si vous doutez, et si vous niez, dérangez-vous quelques heures, venez avec nous, incrédules, et nous vous ferons voir de vos yeux, toucher de vos mains les plaies saignantes de ce Christ qu'on appelle le peuple. » Né à Buenos Aires, notre apothicaire de l'âme grandit en Argentine jusqu'à ses 12 ans, puis s'exile avec sa famille à Paris via l'Uruguay. Le jeune homme silencieux ne parle pas un mot de français. Il dira plus tard qu'à son arrivée, il apprit à se taire dans une nouvelle langue. Au lycée, il rencontre Cédric Clapiche, avec lequel il ne le sait pas encore, il sera amené à souvent collaborer. Il étudie les lettres et la philosophie dans deux universités et l'histoire de l'art à l'école du Louvre. Il devient scénariste, notamment pour Le péril jeune de Clapiche, Post coitum animal triste de Brigitte Rouen ou encore Les gens normaux n'ont rien d'exceptionnel de Laurence Ferreira Barbosa, puis réalisateur et écrivain. Depuis 30 ans, pour combattre le silence qui l'étouffe depuis sa naissance, il façonne une œuvre littéraire autobiographique vertigineuse et loin d'être exempte de spleen. Peut-on apaiser sa douleur personnelle en étant l'encyclopédiste ? Rien n'est moins sûr, mais il se peut que la plus grande beauté de l'acte créateur réside dans la quête continuelle de l'inatteignable. Bonjour Santiago Amigorena.
Bonjour.
Santiago Amigorena, la première question de cette émission est attendue, c'est quel est votre rapport à la mélancolie ? Et je pense qu'il est assez complexe, car vous en parlez dans la plupart de vos livres.
Oui, je suis heureusement mélancolique depuis ma naissance. Chez Saturne in Aquarium, c'est ce qu'on considérait, je pense, comme voilà, qui excitait un peu l'humeur mélancolique. Donc j'aime bien dire voilà que c'est dû à ma naissance, à ma date de naissance, donc à l'astrologie, mais que c'est dû aussi à tous les exils, que ça accompagnait le silence de l'enfant que j'étais, qui était très très aphone, laconique, taciturne.
Des adjectifs qu'on retrouve dans les titres de vos
livres. Des premiers livres, oui. Et je suis, je pense, resté mélancolique, donc c'est quelque chose que je cherche plutôt que je n'évite. Donc j'étais très intrigué de par le nom de cette émission, Remède contre la mélancolie, c'est ça. Alors que moi je serais plutôt à la recherche d'excitants pour la mélancolie, ou stimulants qui me font être chaque fois plus mélancolique. Donc je suis venu chercher des solutions, pas répondre à des questions.
Il n'y a pas de solution, mais j'espère qu'on aura des réponses, Santiago Amigorena. Vous écrivez... Non, d'accord. Parlons d'autre chose alors. Dans les premières fois, vous écrivez que vous êtes submergé par cette tristesse qui ne devait jamais vous quitter tout à fait. Vous parlez aussi de votre propension à verser des larmes en public et vous dites, quelle que soit la manière, vous dites, le narrateur dit, quelle que soit la manière dont mes larmes sont reçues, verser des larmes en public me réconforte.
Oui, je pense qu'il y a une sorte de partage de la douleur qui fait que on se débarrasse par les larmes comme par les larmes d'encre, par l'écriture. C'est-à-dire que j'ai toujours l'impression en écrivant que je ravive des douleurs. J'écris sur le passé en général, donc que ce soit des souvenirs heureux, voilà, ils me rendent triste parce que le moment heureux est passé et je l'ai perdu. Et si c'est des souvenirs douloureux, il y a plutôt la douleur qui revient. Donc je pense que l'écriture est toujours douloureuse. Et en même temps, comme des larmes, elles donnent quelque chose à partager. Et dans ce partage, il y a une sorte d'oubli qui commence à avoir lieu, une forme de deuil peut-être du passé, et donc on finit un peu réconcilié. Mais si on arrêtait complètement d'être mélancolique, on arrêterait d'écrire, et peut-être ça me fait trop peur encore d'arrêter d'écrire.
Et cette écriture, vous dites qu'elle participe à un allègement de la mélancolie, Santiago Amigorena, et en même temps qu'elle n'est pas du tout un remède à la mélancolie. Il y a ce rapport ambigu, finalement, à la mélancolie et à la joie qui traverse toute votre œuvre. Dans Le ghetto intérieur, votre dernier livre, Vincente, le narrateur, à un moment répond « C'est vrai, notre bonheur est le résultat d'un malheur extrême ».
Oui, là, il parle des Juifs, plus précisément.
Oui, mais cette alliance... Notre bonheur est le résultat d'un malheur extrême, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que je pense que l'humeur mélancolique, elle fait les deux. C'est-à-dire que dans la mélancolie, on sent une sorte d'impuissance très grande, et de cette impuissance naît n'importe quel type de création. Donc c'est pour ça que historiquement, voilà, l'humeur mélancolique est à la fois celle des malades, par exemple dans les monastères, les moines qui n'arrivaient pas à sortir de leur cellule, qui se taisaient, qui restaient enfermés, et en même temps celle de tous les génies. Je crois que c'est Aristote qui est le premier à dire ça, que l'humeur mélancolique crée aussi absolument les choses les plus importantes en poésie, en philosophie, dans les arts. Donc je crois que, comme plein de choses, je pense qu'il faut garder cette complexité ou cette non-résolution. C'est-à-dire que c'est une forme de paradoxe qui est belle. C'est-à-dire penser que le malheur et le bonheur ne sont pas séparés. C'est-à-dire pas que ça se succède, pas que c'est l'un après l'autre, mais que ce qui est le plus intense dans la vie, c'est de les vivre ensemble en même temps. Et je pense que dans l'écriture, qui est toujours une forme de malheur dans la mesure où ça naît dans la mémoire, et voilà, c'est dirigé vers la mort, il peut y avoir aussi cette sorte de toute-puissance que moi je ressens. Par exemple, j'écris le matin très tôt avant que le soleil se lève. Quand le soleil se lève, j'ai une sorte d'exaltation extrême qui est de me dire j'aide le soleil à se lever en écrivant. J'arrête là,
le soleil m'a dit qu'il se levait uniquement grâce à vous, Santiago Amigorena.
Je sais que parfois il murmure des choses un peu difficiles à comprendre à des gens qui ont une bonne oreille.
Bon, j'annonce le sommaire des réjouissances et on va reparler de cette vision presque nietzschéenne, en fait, des choses, de l'intégralité de la vie, puisque ça va revenir dans une citation de Valéry que vous avez choisie, et vous allez convoquer d'autres choses comme Fellini, l'absence de pensée, l'essence des choses, Giorgio Agamben, Mercedes Sosa, Los Twist, Vermeer, Bellini et du football, juste après le titre Autrement de Malik Djoudi.
Me sentir autrement, comme quand j'avais 20 ans. Te séduire, t'envahir et attendre de janvier à décembre. Te séduire, t'envahir, j'en ai marre de penser à l'autre. Je préfère jouer dans mon studio. Janvier à décembre, te séduire. janvier à décembre, te séduire, t'envahir et attendre.
Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie de Santiago Amigorena.
Sì, Silvia, vengo anch'io. Vengo anch'io. Ma sì, ha ragione lei, sto sbagliando tutto. Stiamo sbagliando tutto.
1960, la Dolce Vita de Fellini, on entend la scène, la fameuse scène de la fontaine de Trevi. Et c'est amusant, Santiago Amigorena, puisque c'est la scène que vous avez choisie. Vous l'évoquez dans votre livre « Des jours que je n'ai pas oubliés » où le narrateur se déambule dans les rues et se livre à des réflexions sur l'amour, le temps, la mort, l'écriture. Et au chapitre 74, il se promène à Rome la nuit et la vue de la fontaine de Trevi lui rappelle cette scène. Il y a quelque chose qui m'a amusée en préparant cette émission, Santiago Amigorena, c'est que vous dites « Quand on écrit, on doit chercher la vérité, pas la réalité ». Eh bien, ce souvenir de cette scène, vous l'avez aussi transformé dans votre livre, puisque vous avez retranscrit ce qui se dit, ce que Marcello Mastroianni dit dans cette scène, et en fait, vous avez fusionné deux scènes ensemble.
Oui, parce que je pense que la vérité, elle n'est pas dans la, justement, elle n'est pas dans la réalité. C'est-à-dire que ma vérité à moi, ce n'est pas une vérité que pourrait certifier ou corroborer d'autres mémoires que la mienne. C'est-à-dire, ma vérité, c'est le rapport entre mon présent et mon passé. Dans ce cas-là, par exemple, c'est le narrateur qui se promène dans Rome, qui va se souvenir d'une scène d'un film. Si le souvenir de cette scène est erroné, c'est le film qui est erroné, c'est pas le souvenir de cette scène à ce moment précis, donc je peux pas transcrire autre chose. Et en fait, tout mon rapport avec le passé dans l'écriture est semblable. C'est-à-dire, quand j'écris, donc, par exemple, le dernier livre sur mon grand-père et le silence de mon grand-père, dans le ghetto intérieur, je cherche un rapport entre le présent et le passé. Je cherche pas à donner le passé, à être absolument fidèle à tout ce qui a eu lieu et que je pourrais trouver soit dans des livres, soit dans des récits qui sont pas les miens. Je cherche juste un écho du passé dans le présent.
Et c'est pour ça que je soulignais ce détail, Santiago Amigorena. C'est parce que je trouvais que ça faisait vraiment écho à votre façon de concevoir la fiction, la réalité, la vérité. Pourquoi choisir le monologue de Marcello Mastroianni dans La Dolce Vita quand il regarde cette magnifique sirène?
Parce que c'est son faux remède pour la mélancolie, je pense. C'est-à-dire que Marcello, dans le film, donc le personnage qui s'appelle Marcello, c'est un homme extrêmement mélancolique. C'est quelqu'un qui veut écrire, mais qui n'arrive pas du tout à écrire. Qui a un ami, qui est une espèce d'intellectuel absolument sublime. Mais voilà, cette figure d'intelligence absolue finit par se suicider en tuant ses enfants. Donc c'est tout, de tous les côtés, il y a de l'impuissance. Et il est amoureux d'une femme, mais qu'il ne supporte pas en même temps. Il ne peut pas se séparer, il l'aime. Et voilà, il veut s'en aller. Et tout d'un coup, il y a la figure donc de Anita Ekberg qui est peut-être un remède à la mélancolie. Sauf qu'évidemment, ça va durer quelques minutes du film et qu'après, ça va amener Marcello à se faire casser la gueule par son copain scénariste en la ramenant à l'hôtel. Mais dans ce moment-là, ce qu'il dit, je trouve que c'est extrêmement fort par rapport à la mélancolie. Il dit... Peut-être, c'est elle qui a raison, c'est-à-dire parce qu'elle est sous la fontaine de Trevi, en train de se baigner dans un endroit absurde, et lui qui aurait jamais fait ça, quoi. C'est-à-dire, lui regarde de loin tout ce qui se passe. Tout d'un coup, il rentre dans l'eau, il dit, mais oui, c'est elle qui a raison. Moi, j'ai tort, on a tous tort. C'est-à-dire, la vie, peut-être, c'est ça. La vie, peut-être, c'est rien d'autre que se baigner dans la fontaine de Trevi à l'aube. Moi, je sais bien que c'est pas ça seulement la vie, mais l'idée que ce ne soit que ça, je pense que c'est une idée non mélancolique.
Mais vous aimeriez aller vers ce rapport au monde, par exemple par le personnage d'Anita Ekberg dans le film?
Je pense que c'est inévitable de parfois d'aller vers ça, et en même temps, comme tous les gens qui écrivent ou qui peignent, qui pensent, je n'y crois pas vraiment. C'est-à-dire que, par exemple, Nietzsche dont vous parliez. Évidemment, Nietzsche, pour Nietzsche, qu'est-ce qui est le plus important dans le monde, dans la vie, c'est la musique, la danse, le rire, quoi. C'est ces choses-là qu'il met en avant, l'instinct par-dessus la raison. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il a fait Nietzsche? Il n'a pas rigolé beaucoup, il n'a pas dansé beaucoup. Donc il n'y a pas de solution à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'unité possible entre la pensée et l'action à ce niveau-là.
Et pourtant, Santiago Amigorena, vous avez aussi écrit que toute votre vie, vous aspiriez à la légèreté, mais vous savez que vous êtes condamné à ne pas l'être léger.
Oui, je crois que j'écris même que toute l'œuvre, tout le projet que j'ai fait littéraire, donc ça fait une trentaine d'années que j'écris que des livres qui font partie de ce projet. J'espère qu'un jour je le finirai et qu'après ça j'écrirai juste quelques poèmes par-ci par-là, mais pas plus que ça. Donc c'est une forme de légèreté pour moi. Dans la poésie, il peut y avoir cette légèreté. Mais je pense pas que, voilà, je pense pas que ce sera du côté d'Anita Ekberg ou de devenir danseur ou chanteur ou comique.
Vous allez jusqu'à dire, Santiago Amigorena, que les seuls moments non mélancoliques pour vous sont ceux où vous ne pensez pas. Alors vous l'êtes vraiment la majorité du temps?
Bah oui, non, je le suis absolument tout le temps. C'est-à-dire que je n'échappe jamais à la mélancolie.
De vous y plaire.
Mais je m'y plais absolument. Je pense pas qu'il faut être contre la mélancolie. Il faut être pour la mélancolie. Il faut prendre cette contradiction qu'il y a dans la mélancolie, qui est à la fois d'être le plus malheureux du monde et le plus heureux dans la possibilité justement de avoir conscience de ce malheur et d'en faire autre chose. Et on en fait autre chose quand on est mélancolique. C'est comme le désespoir. Le désespoir. On est désespéré parce qu'on espère encore, on n'est pas désespéré parce qu'il n'y a plus rien, il y a encore un futur qui apparaît.
Oui, c'est presque un soulagement en fait quand il n'y a plus aucun espoir.
Oui, parce qu'espérer, voilà, qu'est-ce que c'est?
On peut encore être déçu.
Voilà.
Vous arrivez malgré tout à éprouver parfois, sans être Anita Ekberg, à éprouver des joies pures.
Oui, j'éprouve, par exemple, le matin très tôt quand j'écris, je peux éprouver cette joie absolue. Je l'ai écrit dans la première défaite, mais voilà, il y a un moment, en général j'écris avant que le jour se lève, donc quand le soleil se lève, j'éprouve vraiment une sorte de joie parfaite, que je peux éprouver aussi parfois en écrivant des poèmes, mais même dans les poèmes, je pense que l'instant vraiment où on a senti quelque chose de profondément heureux, au moment où on écrit, c'est fini. C'est-à-dire qu'on écrit parce que ce moment-là est passé. Mais je regrette pas qu'il passe. C'est-à-dire qu'il est fait pour passer. Donc, voilà, on a conscience de ce passage. Ce qui serait vraiment une sorte de malheur extrême que je pense aucun être humain ne connaît vraiment, c'est de ne rien sentir de tout ça. Une fois qu'on est mélancolique, on se dit, ben voilà, l'intensité de la vie, elle est dans cette contradiction entre bonheur et malheur et dans le fait de vivre tiraillé par ça.
L'infini est défini. Ce qui n'existe pas, n'existe plus. Si la connaissance est ce qu'il faut produire par l'esprit pour que soit ce qui est, te voici Faust, connaissance pleine et pure, plénitude, accomplissement. Je suis celui que je suis.
Extrait de Mon Faust de Paul Valéry. On entend le personnage de Faust interprété par Michel Etcheverry en 76. Votre citation consolatoire, Santiago Amigorena, vient de ce long monologue de Faust dans l'ouvrage publié par Valéry en 46. Pour que soit ce qui est, que vous reprenez dans les premières fois.
Oui, et que je n'avais jamais entendu dans le monologue, parce que je l'ai lu dans un texte de Valéry où il cite cette phrase toute seule. Oui, pour que soit ce qui est. Je pense que dans pour que soit ce qui est, ce que je trouve absolument admirable, c'est que pour moi c'est le contraire de la résignation. C'est-à-dire, c'est pas accepter ce qui est, finalement se contenter de ça ou voilà. Réussir à vivre une petite chose de la réalité, c'est être pour ce qui est, c'est-à-dire arriver à être, à affirmer ce qui est. Je pense qu'on fait dans l'amour, c'est-à-dire que vraiment le vrai amour, c'est l'affirmation de l'autre, c'est dire voilà, il faut que l'autre existe, il faut que l'autre existe, il donne un sens au monde. Dans ce rapport à la réalité de pour que soit ce qui est, c'est dire que voilà, on n'est pas là juste pour contempler ou pour s'attrister parce que la réalité est limitée, mais on est en train de créer la réalité. On est en train de la faire et l'affirmer tout le temps. Mais c'est la réalité, c'est ce qui est. C'est pas quelque chose qui n'est pas et qu'on peut pas atteindre.
C'est assez difficile, cette approbation du réel dans son intégralité. L'exercice d'écriture s'y oppose presque, puisqu'on est un démiurge responsable d'un monde entier, sans altérité.
C'est pour ça que je pense pas. C'est-à-dire que ce que moi j'essaye de faire dans l'écriture, quoi, j'aime bien définir ce que j'écris comme une autobiographie encyclopédique. C'est-à-dire que j'essaye qu'il y ait absolument tout à partir de moi. Mais je me confonds avec le reste. Je n'accorde aucune importance au fait que ce soit moi qui écrive et les autres qui lisent. Je pense qu'il n'y a pas de... L'acte de lire est aussi créateur que l'acte d'écrire. Non, je pense que c'est ce sentiment qu'on a tous d'être une toute petite chose ou d'être le centre du monde. Tout le monde passe par ça. Tout le monde regarde les étoiles et se dit « je ne suis rien ». Et après, il regarde les étoiles et se dit « c'est moi qui les vois, donc je suis tout ». Et ce qui est important, c'est de ne pas vivre ça comme deux raisons d'être malheureux. C'est vivre ça comme une contradiction intense, c'est-à-dire comme quelque chose qui est vivant.
C'est ça qu'on entend dans vos mots, Santiago Amigorena, c'est que vous êtes mélancolique, mais pas malheureux.
Non, pas malheureux du tout. Ou extrêmement malheureux et extrêmement heureux. Mais à la fois, pas l'un après l'autre seulement.
Notre causerie continue juste après un morceau de la playlist France Inter, Yael Naïm, How Will I Know.
Years after you've gone, I'm feeling fine and I fight to be strong. But when I'm laughing, well, it's not quite the same. Years after the tears, I swore to not let it happen again. The pain is gone, but so is the flame. How will I know, right from the start? Protecting my heart.
Remède à la mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie de Santiago Amigorena. Votre sérum littéraire date de 1977, c'est Stanze, paroles et fantasmes dans la culture occidentale du philosophe italien Giorgio Agamben. Il y a 4 pièces critiques et il y en a une sur la mélancolie, dès le début. La couleur est annoncée.
Oui, c'est un livre, c'est le premier livre d'Agamben qui est après devenu un philosophe assez connu, surtout pour les écrits plus politiques. Mais pour moi, c'était vraiment une révélation absolue. C'est un livre qui est assez complexe, c'est un livre de philologie, c'est-à-dire que ça s'attaque beaucoup à des textes anciens, des lectures très particulières de textes et d'images aussi. Donc ça regroupe un peu des sujets variés, mais évidemment beaucoup, quand ça parle beaucoup de la mélancolie, de la relation entre la mélancolie et l'amour et la poésie. Mais pour moi, il y a une sorte de avant tout de plaisir absolu dans le rapport à la culture, et que je sens assez rarement. C'est-à-dire que c'est une culture presque tout le temps heureuse. Et l'écriture elle-même, il y a quelque chose qui me semble assez particulier, c'est que c'est construit comme des petits moments dramatiques. C'est-à-dire que c'est la pure philosophie, et en même temps, chaque chapitre amène à une sorte de résolution qui donne un plaisir dramatique.
Donc, c'est très érudit aussi, il y a une histoire de la mélancolie qu'il retrace dans ses grandes lignes. Et il y a pas mal d'idées assez inédites concernant la mélancolie. Alors d'abord, là, vous venez, Santiago Amigorena, de parler justement de la poésie. Et c'est vrai qu'il dit à Agamben que le mélancolique a un rapport aux objets différents de la valeur d'usage marchande. Et c'est la poésie, la création finalement, qui a une résistance à la valeur marchande qu'on donne au monde.
Oui, c'est assez compliqué, parce que c'est-à-dire qu'il parle de ce sentiment proprement mélancolique qui est d'avoir perdu quelque chose sans savoir ce qu'on a perdu. Et donc, voilà, je crois qu'il y a, c'est en exergue, il y a une citation de Rilke qui est sur le, je ne m'en souviens pas par cœur, mais qui est sur le fait que là, en fait, la perte est une autre forme de possession, et que c'est peut-être une possession un peu plus complète que la possession elle-même. Et dans la poésie, évidemment, il y a ça, surtout la poésie amoureuse. Bon, il parle beaucoup du Dolce Stil Novo, de la poésie du 14e siècle. Et donc, c'est vraiment comment... qu'est-ce que c'est écrire à quelqu'un qu'on a perdu ? Qu'est-ce que c'est d'où naît ce besoin de posséder dans les mots, alors qu'évidemment, on sait qu'on ne va rien posséder, et posséder quelque chose qu'on a perdu. Il y a une phrase, c'est un peu par hasard, mais quand j'avais 20 ans, j'avais écrit un premier scénario, d'un film qui s'est jamais fait, et l'exergue de ce scénario qui s'appelait Écume de lune était une phrase d'Ibsen qui dit « On ne possède éternellement que ce qu'on a perdu ». Et voilà, je pense qu'il y a beaucoup de la source de la poésie se trouve dans ça, et à travers ça, dans la mélancolie elle-même.
C'est d'une beauté assez désespérante.
C'est une beauté désespérante, mais c'est ce qui est important, c'est que c'est beauté désespérante. C'est vrai. C'est pas d'une laideur désespérante.
Non, c'est vrai, c'est d'une beauté désespérante.
Voilà. Et c'est là où c'est ça la mélancolie. C'est la juxtaposition de quelque chose qui est extrêmement beau et extrêmement douloureux.
Chez Agamben, d'ailleurs, on retrouve un peu ces idées qu'on retrouve chez vous, Santiago Amigorena. Pour lui, la mélancolie, c'est une valeur ambiguë, c'est à la fois positif et négatif. Par exemple, il y a cette phrase, à un moment, il dit « Ce qui afflige l'acédiosus, donc celui qui est frappé par l'acédie, qui est un synonyme de mélancolie, n'est donc pas la conscience d'un mal, mais au contraire, l'idée du plus grand des biens. L'acédia consiste précisément en un vertigineux et craintif retrait devant l'obligation faite à l'homme de se tenir en face de Dieu. » C'est presque comme s'il y avait une grandeur métaphysique dont on avait peur.
Ah, bien sûr, et c'est cette grandeur métaphysique qui justifie tout le malheur, mais tout le chemin vers le bonheur. Mais encore une fois, il faut faire attention, parce qu'on a tendance à penser qu'il faut du malheur pour du bonheur, comme si c'était successif. Ce qui est très fort dans la mélancolie, c'est que c'est pas séparé, que ça arrive au même moment. Et c'est pour ça que je parle toujours d'une sorte d'intensité. Donc la chose la plus importante, je pense, dans la vie, en tout cas moi, dans ma vie, ce qui est le plus fondamental, c'est de sentir que les moments sont intenses. Et cette intensité, bien sûr, on peut dire qu'elle vient de malheur profond ou de bonheur profond. Mais elle vient surtout du fait de ne plus chercher à séparer les deux. Je crois que c'est ça C'est ça que je cherche, en tout cas. C'est ça que j'essaye de vivre.
Mais c'est une forme de sagesse, cette acceptation de la non-séparation des deux.
Oui, si on n'oublie pas que dans sagesse, il y a aussi les choses les moins sages. Parce que, donc, pour revenir au tout début, on parlait de Nietzsche. Donc souvent, voilà, c'est pareil, quand on parle de Nietzsche, on essaye de séparer Apollon et Dionysos. Donc la raison d'un côté, la folie de l'autre, ou la pensée et le rire, ou la danse et la culture. Mais Nietzsche lui-même, quoi, ça c'est vraiment le tout début de Nietzsche, c'est la naissance de la tragédie, son premier livre. Mais Nietzsche est allé chaque fois plus vers une conciliation des deux. Et voilà, quoi, le vrai travail de Nietzsche, c'est plutôt de dire qu'il n'y a pas de différence entre Dionysos et Apollon.
Et d'ailleurs, en parlant de ça, Agamben rappelle que Aristote considérait aussi les mélancoliques comme des débauchés et qu'ils avaient un désir érotique colossal.
Oui.
C'est quelque chose qu'on entend assez peu quand on imagine la figure du mélancolique.
Oui, oui. Il y a dans le livre, il y a certains médecins du Moyen Âge qui donnent des remèdes pour la mélancolie. Et là, ils sont assez drôles, quoi. Le coït, le jeûne, la marche à pied. Ça, je crois que c'est un médecin qui s'appelle Racis. Mais il y a aussi, pour le mélancolique amoureux, le fait de le faire coucher avec beaucoup de femmes, le faire coucher ou le mettre en face d'une vieille femme qui va montrer des choses horribles de la bien-aimée, qui va lui raconter toutes les atrocités qu'il faudrait qu'il voit dans cet objet, qui encore une fois est un objet d'amour parce qu'il est perdu. C'est pas un objet d'amour parce qu'il est là. Donc ça, c'est pensé. Voilà, dans tout le côté médical de la mélancolie, c'est vrai qu'il y a énormément aussi à prendre pour se rendre compte à quel point on ne pouvait pas soigner la mélancolie. C'est on échouait constamment à soigner la mélancolie parce que elle était aussi celle qui produisait l'art et la poésie. Donc et encore une fois, c'est pas que l'art ou la poésie soigne chez le mélancolique une sorte d'impuissance à toucher le réel. C'est pas seulement ça, c'est-à-dire c'est le sentiment continu dans l'écriture elle-même.
Et c'est un socle de beauté pour la mélancolie.
Oui, c'est pour la mélancolie qui dure.
Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos. Sin ser sabio competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo.
Votre premier antidote musical, Santiago Amigo Reina, c'est un morceau composé par l'artiste chilienne Violeta Parra en 1962 et chanté par l'Argentine Mercedes Sosa en 1971, Volver a los 17. Sur l'album Homenaje a Violeta Parra, donc un hommage à Violeta Parra, vous avez choisi une chanson très nostalgique, retournée à ses 17 ans.
Ouais, ouais, c'était pour essayer justement de voir qu'est-ce que c'est la différence entre nostalgie et mélancolie. Parce qu'en général, on pense que la mélancolie est une sorte de nostalgie sans passé.
Oui, ou un deuil sans objet.
Voilà. Mais pour moi, par exemple, bon, cette chanson donc, qui dit « Volver a los 17 », revenir à 17 ans, donc, et toute la beauté qu'il peut y avoir dans ça, dans le fait de revenir à 17 ans, et évidemment toute la tristesse qu'il y a dans l'impossibilité de revenir à 17 ans, pour moi, il est lié à un temps aussi, le temps où j'écoutais ça quand j'étais enfant, et quand je suis revenu la première fois en Argentine après l'exil, c'était en 83, donc ça faisait 10 ans que je n'allais pas en Argentine, et Mercedes Sosa a fait un concert, il a rechanté cette chanson, donc pourquoi moi, ma nostalgie, tout d'un coup, elle peut aussi perdre son objet et continuer à être une source d'intensité, de malheur et de bonheur mélangés. Je pourrais ne plus écouter cette chanson si elle se réfère à du passé, mais elle n'est plus du passé pour moi. Mais je l'écoute, donc qu'est-ce que je fais en l'écoutant? J'ai conscience que c'est un objet perdu pour moi, le fait d'avoir 17 ans ou le fait de pouvoir être argentin, être encore là-bas. Donc, d'une certaine manière, j'excite la perte d'un objet que je sais perdu pour sentir autre chose. Et cette chose-là, Voilà, elle est heureuse et malheureuse à la fois. C'est-à-dire, je ne peux pas écouter cette chanson sans sentir les deux. Et, encore une fois, voilà, le sentiment, ce sentiment mêlé de bonheur et de malheur me plaît.
Mercedes Sosa, elle est appelée aussi la voix du peuple silencieux. C'est amusant quand on connaît votre œuvre, Santiago Amigurumi. Ouais. On reste en Argentine.
Y tu miedo al spray. Cleopatra, ¿cuál es tu tumba, tu tumba, tu tumba? Cleopatra, ¿quieres tener todo Egipto a tus pies?
Remède à la mélancolie sur France Inter avec Santiago Amigurumi qui vient de nous faire entendre un morceau de 1983, Cleopatra, la reina, du groupe de rock de Buenos Aires, Los Twist. Et alors, il faut dire quand même que les paroles sont formidables, puisqu'on apprend que Jules César aime Cléopâtre mais il ne danse pas le twist, alors que Cléopâtre aime les bains de lait et a peur des sprays. On apprend aussi que Marc-Antoine a de l'acné.
Oui. Voilà des grandes références historiques. Cette chanson, c'est le contraire de Mercedes Sosa pour moi, parce qu'elle se réfère vraiment à un moment précis, à l'été 1983, sur lequel donc j'ai aussi écrit comme à peu près tout ce qu'il y a dans mon passé, mais qui est un moment où je pense que j'ai été le plus loin que je pouvais dans une forme d'insouciance ou de légèreté. C'est ce que ça réveille, c'est pas du tout de l'écriture, mais des aubes à Punta del Este, qui est un balnéaire d'Uruguay où j'allais quand j'étais enfant, où je suis revenu en 83, où j'étais ivre, heureux. Mais voilà, qu'est-ce que ça fait quand j'écoute ça? Je sais pas très bien. C'est-à-dire, je continue à écouter ça, c'est joyeux et c'est évidemment triste à la fois parce que c'est passé depuis très longtemps ce moment-là, mais je veux pas nier le fait que parfois j'étais le plus loin que je pouvais dans le côté Anita Ekberg et que je regrette pas, quoi. Je porte aucun jugement moral, disons, sur ça. Je pense que quelqu'un qui réussit à être léger, c'est super.
Extrait de la Symphonie sacrée composée en 1597 par le Vénitien Giovanni Gabrielli pour introduire l'œuvre d'art qui vous grise, Santiago Amigurumi. C'est la Conversation sacrée de San Zaccaria de Giovanni Bellini, réalisée au tout début du XVIe siècle. Vous avez fait une thèse à l'EHESS sur le père de Bellini, non ?
Je l'ai commencé, je ne l'ai pas fini. Mais
Jacopo Bellini.
Ouais, sur ses dessins, en fait. C'est dans les dessins du père de Giovanni Bellini et Gentile Bellini, qui étaient deux frères. Jacopo, qui apparaît un peu la perspective à Venise. Donc voilà, c'était sur ça.
Vous avez choisi une conversation silencieuse et musicale.
Oui, c'est-à-dire que ce que j'aime dans ce tableau, c'est exactement ça. Ça s'appelle la conversation sacrée. Il y a un musicien, un enfant musicien dans... dans le tableau, et en même temps, c'est le tableau le plus silencieux pour moi de toute l'histoire de l'art. Il n'y a rien de plus silencieux. Il y a peut-être quelques tableaux de Piero e la Francesca, mais c'est vraiment le silence absolu de la peinture. Et c'est, voilà, c'est encore une fois quelque chose que je n'arrive pas à résoudre. Je sais que j'adore ce tableau. J'aime beaucoup qu'il s'appelle Conversation sacrée et qu'il soit aussi silencieux. J'adore la peinture, j'écris beaucoup sur la peinture, j'écris très très peu sur la musique, je connais très mal et voilà, je ne sais pas avec quel mot on peut écrire sur la musique, mais sur la peinture, j'ai toujours cette, voilà, cette tentation de donner des mots à ce silence. Et pourtant, j'aime pas tellement donner des mots à ce qui est silencieux, j'aime bien parler du silence lui-même, chercher plutôt à être silencieux dans les mots. Mais la peinture, ça provoque ça en moi. Et ce tableau, il est vraiment le paradigme pour moi de cette relation étrange entre peinture et silence.
Vous parlez d'ailleurs de Bellini dans Les Premières Fois, et vous parlez aussi de Vermeer, dont vous louez évidemment aussi le silence Santiago Amigorena, et ce n'est pas anodin puisque vous avez choisi pour l'émission la leçon de musique interrompue de Vermeer. À nouveau, une leçon de musique interrompu, le silence et la musique.
Oui, c'est autre chose. C'est-à-dire que dans ce tableau-là, ce qui me fascine, c'est comment le regard de la petite fille qui prend sa leçon de musique se tourne vers le spectateur. Et pour moi, il y a quelque chose de... Bon, je l'ai écrit dans Les Premières Fois, mais je suis toujours vraiment stupéfait par la force de ce qu'elle adresse au spectateur, quoi, par ce côté où... Où voilà, vraiment on l'entend dire juste dans un regard, c'est-à-dire on entend dire des choses qu'il faut dire avec des mots et donc qu'il faut rendre longues et discursives, alors que là tout est concentré en un seul regard qui ne demande pas des mots, mais moi j'entends dans ce silence quelqu'un qui me dit mais qu'est-ce que vous faites là, pourquoi vous me regardez, qui vous a permis d'entrer, donc toutes ces choses voilà qu'on peut pas dire autrement qu'en mettant plein de mots qui prennent plein de temps et qui n'ont aucun intérêt. C'est dans un regard qui est absolument impressionnant.
Justement, maintenant, un grand écart sonore avec plein de mots en tous sens.
Aquí Pavón y Boboril. Pavón y busca pie de vivo y está gol. Gol de Boca.
Match de Boca Juniors contre le Racing Club d'Avellaneda en 2016, puisque nous savons, Santiago Amigorena, que vous êtes fan des Boca Juniors, un club du quartier populaire de la Boca à Buenos Aires, et que l'activité qui vous met en joie, c'est de jouer au football. Dans Les Premières Fois, vous écrivez aussi sur le football, et vous dites... Nous avions honte d'aimer, vous dites, le narrateur, pardon, à chaque fois je fais un raccourci qui ne se fait pas quand on est écrivain. Nous avions honte d'aimer ce sport, de parler davantage de football que de peinture, de littérature, parfois même davantage que de politique. Et vous concluez ce paragraphe en écrivant, c'est cette honte-là, une honte pour l'espèce humaine que j'éprouve à présent lorsque j'entends que le football est un art.
Oui, c'est-à-dire que c'est un rapport à la culture en général, c'est vrai que... Je raconte, je pense, dans Les Premières Fois, une conversation avec mon frère et mon cousin où après, c'était pendant le mondial de 1978, où on regrettait d'une certaine manière que pour celui de 82, donc 4 ans plus tard, on serait déjà un peu plus âgé, que ça, le foot forcément nous intéresserait un peu moins et qu'on allait être triste de perdre cette passion adolescente pour le football. Malheureusement, je pense qu'on a toujours plus parlé de football et chaque fois plus regarder les matchs de foot, surtout les Coupes du Monde. Donc voilà, je me trompais absolument sur ce sentiment, mais j'ai beaucoup de mal aussi avec la place qu'on donne maintenant au football, comme s'il fallait, voilà, bon, c'est une idée très courante aujourd'hui, qu'il faut tout considérer comme un art. C'est-à-dire, c'est, après le 7e art, il y a eu le 8e, et là on doit être à 25 ou 40 arts, alors que moi je ne pense pas que c'est de l'art du tout. Par contre, c'est quelque chose qui est proche peut-être de ce sentiment de rire ou de danse qu'on peut avoir, quoi, ce sentiment d'instantané. Donc c'est pour ça aussi que je pense que le football a quelque chose de peut-être plus fort que les autres sports, parce qu'il y a le miracle du but. C'est-à-dire qu'il y a plein de sports où ça arrive un peu tout le temps, au foot et surtout dans les matchs. il y a plus longtemps, avant qu'on change les règles, comme la passe au gardien de but, tout ça, le but était vraiment un miracle. C'est-à-dire, il y avait beaucoup de matchs qui finissaient 0-0 et souvent 1-0. Et ça provoquait voilà, une sorte d'exaltation extrême, immédiate, un peu stupide, qui n'a rien à voir avec l'art et la culture, mais qui était très, très insouciante, très légère.
Peut-être que vous avez enfin réussi à être Anita Ekberg par le football, Santiago Amigorena.
C'est possible.
Merci beaucoup d'être venu dans cette émission. Votre dernier récit, je dis récit comme ça je ne prends pas de risque, est paru chez POL sous le titre Le ghetto intérieur. C'est l'histoire de votre grand-père installé en Argentine en 1928. Apparaître chez Stock le 18 mars, Il y a un seul amour, dans la collection Une nuit au musée. Vous, c'était au musée Picasso. Et dans le cadre du festival Hors Limite, vous serez le 31 mars prochain à la librairie Folie d'encre à Montreuil à 18h30. Chers auditeurs, la programmation musicale, les remèdes sont comme toujours sur le site de l'émission. J'espère que vous êtes aussi à l'acre qu'une noisette sinusoïdale. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h10.